Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, mais...
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Oui, cher monsieur, la mésaventure qui va suivre vous est déjà.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise,
notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top.
C'est l'heure de le mettre.
Mais ça n'est pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas là, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallait le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans ses conceptions?
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sans mes foutus pas grand,
hein? Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tombé en panne de pause. C'est tant que je pas toucher. C'est quand même curieux, non? 100 fois, tu dis, jamais tombé en panne.
Aujourd'hui, mercredi 27 janvier, c'est la Saint-Olivier Duhamel. Saint-Olivier Duhamel est le saint patron d'une certaine gauche. Celle qui, incestueuse, couche avec le bourgeois dans le lit de la presse, sur des matelas de bifton. Votre honneur, Saint-Olivier Duhamel est innocent et nous allons vous le démontrer. D'abord, comme son nom l'indique, Saint-Olivier Duhamel est un saint, canonisé en bonne et due forme, par les huiles les plus onctueuses de la République. Il est du milieu, de ce milieu qu'on ne saurait accuser du moindre mal, pour la bonne et simple raison qu'il nous faut, ensemble, protéger nos privilèges bourgeois contre la vindicte d'une populace qui n'a ni queue ni tête et dont la sauvagerie doit être réprimée sévèrement. Cela suffit, le populisme! Le saviez-vous, juré dit « populaire » et qui vous précipiteriez à condamner le non-condamnable, l'intouchable, bien qu'éminemment tripotable, à briser le tabou, à jeter Oedipe en pâture à la plèbe, à flétrir l'honneur d'un homme avec un grand H et une grande B? Le saviez-vous, Saint-Olivier Duhamel a vu le jour à Neuilly-sur-Seine, c'est-à-dire dans le milieu incestueux par définition. Dans un milieu où la reproduction sociale nécessite l'entre-soi et dans lequel, afin de se montrer moderne, on assume ses frasques sans s'embarrasser de la morale chrétienne. Et ça, eh ben, c'est ce qui fait la différence entre la gauche de Neuilly et la droite de Neuilly. Votre honneur, Saint-Olivier Duhamel est un homme orchestre, du libéralisme bourgeois, un éditorialiste prolifique, une figure médiatique, un socialiste, tout ce qu'il y a de plus européen, il est de tous les réseaux, de toutes les coteries, de toutes les partouzes où, entre Sodome et Saint-Trope, se dessine l'avenir de notre société tout entière, une société entièrement privatisée, un club échangiste pour les privilégiés, dont les plaisirs et profits ruisselleraient sur la France d'en bas. Il n'y a plus de lutte des classes, mais une vaste éjaculation faciale que nous appellerons le grand débat pour maintenir certaines apparences. Quoi ? Qu'entends-je ? De suite les mots qui fâchent. Pédophilie, mais qui n'a jamais tenu un jeune garçon entre ses bras et ressenti toute la vigueur de l'éphèbe dans sa prime jeunesse ? Qui n'a pas alors ressenti le désir impérieux, irrépressible, évident, de signer une pétition pour faire accepter son escapade en Thaïlande ou son séjour à la Mamounia, hein ? Qui ? Que celui qui n'a jamais tripoté un gamin jette sa gourme à Saint-Olivier-du-Hamel. Votre honneur, dans cette société incestueuse où le profit se glisse dans tous les draps et transforme toutes les amours en relations tarifées, le riche disposant du pauvre comme cela est le cas dans tous les autres domaines de la vie, de l'usine au supermarché, de la culture avec un grand cul aux isoloirs masturbatoires, il est donc absolument normal que les enfants soient mis au service de nos plaisirs comme une métaphore de cette France mineure qui travaille pour nous sur les trottoirs du capital que nous avons le bon goût de parsemer de paillettes. Et vous voudriez quoi ? Le communisme peut-être ? Aujourd'hui, mercredi 27 janvier 2021, le soleil s'est levé recherchant les symptômes d'orgasmes illusoires. Il s'est couché loin des jalouses et des tourments comme le jour qui va mourant. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus et sur lecampuslib.com.
Ils étaient tous réunis, le curé de la famille avait flanqué sa bedaine au confluent des cieux. Fermez les yeux, ces jeux ne sont pas pour les bons dieux. Le faisan était déchiré, plume s'en était allée, couronner les lieux secrets de la belle baronne. Fermez les yeux, ces jeux ne sont pas pour les bons dieux. Le valet de cœur poussa ses mains de velours sur la fine fleur d'une dame de cour. Courez, buvez, chantez, le roi est mort. Ce matin, comme des millions de feux follets, le vin dégueulait des pichets pour venir tâcher les robes qui n'en étaient plus. Fermez les yeux, ces jeux ne sont pas pour les bons dieux. Nonchalamment, le petit page ouvrit son livre d'images sous le pieu flamboyant du chat noir qui miaulait. Fermez les yeux, ces jeux ne sont pas pour les bons dieux. Viens, butinez mon bréviaire, abeille hérétique. De la première prière au dernier cantique. Courez, buvez, chantez, le roi est mort ce matin. Votre tour, mes cheveux en balle. Il y a feu au château, c'est la fin du bal. Courez, buvez, chantez, le roi est mort ce matin.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
Kamel Badawi, militant communiste algérien. Donc bonsoir à toutes et à tous, et merci militants pour la participation à cette rencontre que nous voulons anti-impérialiste, de solidarité avec les peuples sahraouis et palestiniens. L'objectif politique de cette rencontre est de dépasser l'événementiel et de montrer le lien et l'essence commune entre les questions de la Palestine, du Sahara occidental, les luttes anticoloniales, anti-impérialistes et anticapitalistes. On a posé les questions suivantes à 8 intervenants que je vous présenterai dans un instant. Quelle réponse face à l'aggravation des menaces impérialistes et réactionnaires au Maghreb et au Sahel? Quelle défense efficace des États nationaux dans l'intérêt des masses populaires? Quelles initiatives de solidarité avec les luttes des peuples sahraouis et palestiniens? On a choisi de donner la parole à des représentants et militants présents sur les fronts de la lutte, armée pour certains et politique ou idéologique pour d'autres. Et on espère ainsi que la rencontre enrichira vos informations, vos connaissances et nourrira surtout vos initiatives et vos luttes. Cette rencontre, en réalité, fait suite à l'appel d'Alger du 22 décembre 2020. Et en fait d'appel, il s'agissait d'une adresse aux travailleurs qui alertait sur les dangers conséquents aux derniers événements survenus au Maghreb et qui appelait à prendre des initiatives pour la défense de l'État social, de l'État national, pour une solidarité plus active avec les peuples sahraouis et palestiniens. Je me permets de rappeler très brièvement ce contexte, justement pour signifier cette identité politique de cette rencontre. Ce contexte s'est dangereusement aggravé depuis le mois dernier en raison de 3 événements dont la concomitance chronologique révèle en réalité une parfaite coordination politique. D'abord, les attaques militaires menées par le pouvoir marocain contre le peuple sahraoui, à Al-Ghigret, au Sahara occidental occupé, la reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental par le président des USA, alors encore en fin d'exercice de son mandat, et la normalisation des relations entre le Maroc et l'État sioniste. Un contexte lourd de danger, à la fois pour les peuples et les États de la région. D'abord parce que le peuple sahraoui, qui se trouve toujours empêché d'exercer son droit à l'autodétermination, et voit se prolonger l'occupation de son territoire, l'exploitation illégale et illégitime de ses richesses et la répression des résistants et pour des milliers de Sahraouis les difficiles conditions de vie de l'exil. Ensuite, parce que cette situation a des conséquences militaires, politiques et économiques majeures. Elle fait du Maghreb un champ directement opérationnel pour les forces sionistes de l'OTAN et de l'UE en accroissant de façon substantielle la possibilité et la coordination de leurs interventions militaires et économiques contre les peuples de la région. Enfin, pour le peuple palestinien, qui tout en continuant d'affronter la violence guerrière de la colonisation sioniste avec des sacrifices inouïs, voit s'élargir et se consolider le front des États « normalisés », entre guillemets, c'est-à-dire de la réaction arabe. Ainsi, c'est le plan dit « accord du siècle » qui continue d'être déployé dans l'ensemble du monde arabe, s'inscrivant ainsi dans une stratégie d'action continue, militaire et économique, de domination et de spoliation des peuples. Depuis les accords de Sykes-Picot en 1916, suivis en 1917 de la déclaration de Balfour, de la Nakba en 1948, de la guerre d'agression en 1967, des accords de Camp David en 1978, de l'agression contre l'Irak en 1991, des accords d'Oslo en 1993, des accords de Oued Araba en 1994, de l'initiative arabe de paix en 2002, de l'invasion de l'Irak en 2003, du projet du Grand Moyen-Orient activé en 2006, de la déstabilisation permanente du Liban, des guerres d'agression contre les peuples et les nations libyennes, syriennes et yéménites, achevant ainsi d'enterrer le front du refus et de la fermeté, Jebhat al-Rafd al-Soumoud, formé par la Syrie, l'Irak, la Libye, le Yémen et l'Algérie. Les dirigeants réactionnaires arabes, tout comme les dirigeants impérialistes et sionistes, se voient obligés, aujourd'hui plus qu'auparavant, de s'afficher comme l'ennemi des peuples. Ce n'est pas seulement une trahison morale de leurs concitoyens, objectivement, de par leur statut social et économique de leur classe, ils ne peuvent entrevoir leur salut en dehors de leur alliance avec l'impérialisme et le sionisme. Les dirigeants des États impérialistes et sionistes, s'appuyant sur les régimes arabes normalisés, entre guillemets, ciblent les États nationaux, multiplient et amplifient les obstacles pour éloigner les perspectives d'un développement au profit de leur couche laborieuse. L'enjeu de classe de ces initiatives, planifiées et coordonnées entre le pouvoir réactionnaire marocain, l'État sioniste et le dirigeant impérialiste états-unien, est en réalité de consolider et de verrouiller la sortie du Maghreb de l'ordre social capitaliste et de le consolider comme zone de profit pour le capitalisme mondialisé. Cette situation impose aux forces de progrès du Maghreb qui veulent agir à la fois pour la défense de la souveraineté nationale et populaire et la défense du camp du travail, de ne pas laisser l'initiative politique à la seule réaction arabe en portant et en popularisation et en popularisant l'aspiration profonde au Maghreb des peuples en lieu et place du seul Maghreb des États, de mettre au centre de la construction du Maghreb des peuples la défense des intérêts du camp du travail, d'intensifier et de coordonner les mobilisations pour les porter au niveau exigé par le combat anticolonialiste et anti-impérialiste. C'est là le sens politique que nous voulons donner à cette rencontre. Un appel donc aux forces progressistes du Maghreb, en Espagne, en France notamment, pour des initiatives unitaires contre l'impérialisme, le sionisme et la réaction arabe. C'est une tâche urgente, nécessaire et donc possible. Voilà, c'était là un peu une intervention, déclaration liminaire. Avant de donner la parole à nos intervenants, la rencontre a été organisée avec le soutien actif de camarades du CRI Rouge, du Comité d'action et de soutien aux luttes du peuple marocain et de la campagne unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. On va commencer par le premier intervenant. Ce sera le camarade Saïd Bouamama. Alors, je rappelle très brièvement que Saïd Bouamama, c'est un militant communiste. Il est l'un des membres fondateurs du FIQP. Il est aussi socio-économiste, il a écrit de nombreux ouvrages, notamment sur les systèmes de domination, et je lui passe immédiatement la parole.
Camarades, bonjour. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de notre rencontre dans un contexte où tous les processus en œuvre dans le système impérialiste s'accélèrent. La crise générale du capitalisme s'accélère, les agressions impérialistes s'accélèrent, les luttes des peuples s'accélèrent, et dans ces moments-là, des moments où mûrissent les facteurs objectifs d'une transformation radicale, eh bien, la rencontre des militants est toujours un outil important pour réunir le facteur subjectif de la transformation, c'est-à-dire les cadres de pensée et les cadres organisationnels nécessaires à la transformation. Les questions qui nous réunissent aujourd'hui sont à la fois claires et à la fois complexes. Que signifie la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël ? Que signifie la reconnaissance impérialiste de la souveraineté marocaine sur le Sahel el-Amra et Rio de Oro ? Quelle est la réelle stratégie de la France et de l'Union européenne au Sahel ? Quelles sont les tâches des révolutionnaires face à ces deux offensives impérialistes ? Répondre à ces questions de manière objectivée suppose d'utiliser rigoureusement les lois de la dialectique. Nous avons un devoir de rigueur dans ce monde complexe d'aujourd'hui, à savoir, premièrement, resituer ces faits dans leur contexte économique, internationaux et régionaux. Deuxièmement, prendre en compte le mouvement, c'est-à-dire ce qui est en mutation actuellement. Troisièmement, caractériser les contradictions à l'œuvre aujourd'hui dans cette région du monde, mais aussi à l'échelle mondiale. Et quatrièmement, tirer les leçons politiques de cette réalité matérielle. Il n'est pas possible dans cette introduction d'être exhaustif sur ces différents aspects. Nous nous contenterons donc de donner quelques points de repère qui semble incontournable pour comprendre les enjeux et prendre la mesure des tâches politiques à l'ordre du jour. Premier aspect, les contextes. Sur le plan historique, l'Afrique du Nord, comme le Sahel, hérite de structures économiques nationales et sociales issues de la colonisation. Si les caractérisations des pouvoirs en place et des politiques mises en œuvre depuis les indépendances ont été différentes d'une nation à l'autre, aucune de ces nations ne peut considérer avoir résolu la question nationale. La résolution de celle-ci suppose en effet une politique économique industrielle et agricole autocentrée, un développement intégré de toutes les régions du pays, la prise en compte égalitaire de la diversité de la population. Bref, pour l'ensemble des pays concernés, la phase de libération nationale n'est pas encore close. Sur le plan historique également, Les expériences ayant été les plus avancées dans la prise en compte, même partielle, de ces tâches nationales, ont été l'objet de sabotages par l'ingérence et par le soft power. Le Mali de l'époque de Modibo Keïta, la Guinée de l'époque de Sékou Touré, ou l'Algérie de l'époque de Boumédienne, ou encore le Burkina de Thomas Sankara, ont cédé la place à des pouvoirs capitalistes néolibéraux. Sur le plan économique, la région se caractérise également par des découvertes sans précédent de nouvelles ressources minérales et énergétiques, en particulier en Afrique de l'Ouest. Les contradictions pour la maîtrise de ces ressources font de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest un des principaux terrains d'affrontement des différents impérialismes. Toujours sur le plan économique, les choix libéraux des classes dominantes de tous les pays de la zone traduisent une insertion dominée dans la mondialisation capitaliste. Les plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont affaibli les capacités des États à assurer les tâches nationales minimum, à bâtir la nation, à unifier la population. Autrement dit, la nature de classe des régimes politiques en place les empêche de s'opposer sérieusement et durablement aux ingérences impérialistes. Une première conclusion s'impose donc. Au moment où la question nationale et patriotique est de nouveau posée, aucune prise en compte de celle-ci n'est possible par les classes dominantes de nos pays aujourd'hui. Seules les classes ouvrières, les paysanneries pauvres et les masses des nouveaux précaires de la mondialisation ont intérêt à refuser les nouvelles stratégies impérialistes. Regardons ce qui se passe du côté des mutations contemporaines. La mondialisation capitaliste, ou plus exactement, la nouvelle phase de mondialisation, a été une réaction impérialiste au mouvement de libération nationale. La première étape de ces mouvements de libération a perduré dans son offensive anti-impérialiste jusqu'au milieu de la décennie 70. Coup d'État, assassinat de leaders révolutionnaires, politique de l'endettement, puis plan d'ajustement structurel du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont été des armes de guerre pour stopper cette première étape de la libération nationale. La disparition de l'URSS et avec elle des équilibres issus de la Seconde Guerre mondiale ont créé les conditions de l'accélération de cette nouvelle phase de mondialisation capitaliste. Une des conséquences est le développement sans précédent de la concurrence interimpérialiste. Toutes les guerres et déstabilisations de l'Afrique du Nord ou du Sahel ne peuvent être entièrement comprises qu'en prenant en compte ces aspects. Trois types de causes expliquent en effet les guerres et déstabilisations de la zone. Assurer une mainmise sur une ressource, maîtriser une zone de passage géostratégique, empêcher l'accès des concurrents à une ressource. La mondialisation capitaliste porte en elle l'ingérence et l'agression comme la nuée porte l'orage, pourrait-on dire, en paraphrasant Jaurès. Mais la mondialisation capitaliste, c'est aussi le développement de puissances émergentes, Russie, Chine, etc., qui ont également besoin d'accéder aux ressources africaines. Cette réalité vient briser le face-à-face entre l'impérialisme et les nations dominées. Elle offre une marge de manœuvre nouvelle à des États qui, s'ils étaient dirigés par des révolutionnaires ou même simplement par des patriotes, pourraient s'appuyer sur cette nouvelle donne pour mener à bien leur révolution nationale, démocratique et socialiste. L'impérialisme est bien sûr conscient de cette nouvelle configuration du rapport de force et tente d'y réagir par un nouvel outil qui existait dans le passé mais qui est réactualisé, les processus de balkanisation. Le Soudan a été divisé en deux et le chaos règne en Libye pour ne prendre que deux exemples récents. Concernant le Moyen-Orient, la balkanisation est également à l'ordre du jour. L'inventeur de l'expression « choc des civilisations », Bernard Lewis, expression qui est ensuite reprise par Samuel Huntington, ne s'en cache pas. Ce conseiller d'Henry Kissinger, puis de Brzezinski, propose tout simplement un plan visant à redessiner la carte de l'ensemble de la région. La revue Executive Intelligence Service révèle en 1979 ce plan qui fait un étrange écho aux guerres que nous avons connues depuis lors. Iran-Irak, déstabilisation du Liban, les différentes guerres d'Irak, la guerre de Syrie, les guerres du Yémen. En 2013, une spécialiste en géopolitique du Moyen-Orient, Robin White, publiait un article dans le New York Times au titre significatif. Imaginons un Moyen-Orient remodelé dans lequel figure une carte intitulée « Comment 5 pays pourraient en devenir 14 ?» On y trouve tout simplement exposé le projet d'une partition de la Syrie en trois entités à base ethnique ou religieuse, alaouites, sunnites et kurdes. Celui d'un éclatement de l'Arabie saoudite en 5 provinces, celui également d'une Libye fédérale composée de 3 États, Tripolitaine, Cyrénaïque et Fezzan. Celui enfin du retour de Yémen. Comment ne pas penser également aux interventions d'un Bernard-Henri Lévy, considérant que l'Algérie est un État artificiel composé de trois réels États qu'il faudrait de nouveau séparer. La simple existence de ce type de projet résume la signification et la fonction de l'entité sioniste au Moyen-Orient. Nous ne sommes pas simplement en présence d'une colonisation classique, et même nous ne sommes pas en présence d'une seule colonisation de peuplement. L'entité sioniste est un instrument du système impérialiste mondial, et la colonisation est en quelque sorte une colonisation collective déléguée à l'entité sioniste. C'est toute la difficulté particulière de la lutte de libération nationale palestinienne. C'est également ce qui en fait sa centralité anti-impérialiste. Le scénario n'est pas inédit. La colonisation portugaise était de ce type, comme l'a justement montré et démontré Amilcar Cabral, le grand leader guinéen. L'apartheid en Afrique du Sud avait également cette dimension. Ce n'est pas un hasard si ces colonisations par procuration ont duré le plus longtemps et ont été particulièrement sanglantes. Cette spécificité de la colonisation sioniste fait d'elle une centralité dans la lutte anti-impérialiste mondiale. Surtout que l'État sioniste dispose d'une expérience et d'un savoir-faire certain dans la mise en œuvre des actions de soft power, de division, que l'impérialisme n'hésite pas à mobiliser selon ses besoins. Mehdi Ben Barka décrit déjà en 1963, dans un texte encore d'actualité, le rôle d'Israël en Afrique, les capacités de cet État à jouer sur les moindres contradictions, sur des revendications justes pour les instrumentaliser afin de diviser le camp anticolonial. Les manœuvres actuelles d'Israël, d'instrumentalisation de la question Amazigh, par exemple, ou d'instrumentalisation de la question du génocide au Rwanda, ou de soutien à des ONG diverses jouant des fonctions de division, souligne qu'il s'agit encore d'une actualité brûlante. Concernant l'Afrique du Nord et de l'Ouest, la balkanisation prend la forme de la reprise du vieux projet dit de l'OCRS, Organisation commune des régions sahariennes, consistant à regrouper le nord du Mali et le sud algérien dans un nouvel État artificiel permettant de contrôler toute la région. L'échec de ce plan est lié alors, au moment des indépendances, à la solidarité anti-impérialiste du Mali et de l'Algérie. Par d'autres moyens, ce plan est remis en avant aujourd'hui. Enfin, en parallèle à la balkanisation, le système impérialiste mondial tente d'asseoir des puissances régionales de contrôle à sa botte et au service de ses intérêts. C'est ainsi le rôle de la royauté marocaine. L'isolement de la lutte du peuple sahraoui est un des aspects de ces redécoupages territoriaux de l'impérialisme de l'époque de la mondialisation. Si l'avenir du progressisme au Moyen-Orient est indissociablement lié à la question palestinienne, celui de la révolution en Afrique du Nord est indissociablement lié à la question sahraoui. Une seconde conclusion s'impose donc. La crise du système impérialiste ouvre une nouvelle séquence de la dépendance, caractérisée non seulement par des pouvoirs compradors dans chacun de nos pays, mais par des projets de balkanisation. La question nationale, loin d'être dépassée, est d'une actualité brûlante. Quelles sont les contradictions en œuvre maintenant? Nos peuples ne sont bien entendu pas restés indifférents à ces évolutions. Les luttes de masse se sont développées, avec leurs forces et leurs faiblesses, à un rythme croissant depuis une décennie. Le mouvement populaire jetant Ben Ali dans les poubelles de l'histoire en 2011, celui jetant dans les mêmes poubelles Blaise Compaoré au Burkina en 2014, le mouvement du 20 février en 2011, puis le mouvement populaire du RIF en 2016 pour le Maroc, le Hélar en Algérie en 2019, le développement du mouvement exigeant la fin du franc CFA, puis le retrait des troupes françaises du Sahel dans toute l'Afrique de l'Ouest, tous ces mouvements indiquent un renouveau des luttes des peuples, même si, pour l'instant, il n'y a aucune victoire significative. Pour tous ces mouvements, nous devons sans cesse avoir en tête la vigilance sur laquelle insistait Karl Marx, c'est-à-dire la nécessité de distinguer la cause des mouvements et leurs prétextes. La cause se situe toujours sur le plan matériel, à savoir la dégradation des conditions d'existence des classes populaires, suivant elles-mêmes le rythme de la dépendance accrue à l'impérialisme et à sa mondialisation. Questions nationales et questions sociales sont à ce niveau indissociables. Le prétexte est, lui, fonction de l'état d'avancée du facteur subjectif, c'est-à-dire de l'existence d'organisations politiques permettant de faire des liens entre les différents aspects de la réalité. Paupérisation, dépendance à l'impérialisme et bourgeoisie compradeur hégémonique, restriction des droits démocratiques, développement régional déséquilibré dans chaque pays du fait du caractère néocolonial de l'économie. C'est pourquoi mépriser ces mouvements du fait de leur faiblesse programmatique ou les idéaliser du fait de leur massivité, c'est commettre la même erreur idéaliste. L'impérialisme est de nouveau actif face à ces mouvements de masse pour les canaliser, les maîtriser et si possible les instrumentaliser dans ces projets de balkanisation. C'est tout l'enjeu de l'ONGisation en cours et des financements de ces ONG, des soft power en développement, du soutien de l'impérialisme à certaines revendications populaires juste pour les instrumentaliser. Israël est un outil pour l'impérialisme dans ce cadre. C'est en prenant en compte l'ensemble de ces aspects que nous pouvons tenter de formaliser le système de contradictions caractérisant la situation de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Une première contradiction oppose la triade impérialiste à l'ensemble de nos peuples, la première ayant intérêt à la destruction de toute souveraineté nationale et les seconds ayant intérêt à instaurer intégralement celle-ci. Une seconde contradiction oppose les pouvoirs néolibéraux de chacun des pays représentant la bourgeoisie comprador à leur peuple. Aucune amélioration des conditions d'existence des masses populaires n'est possible sans la rupture avec les cadres néocoloniaux et néolibéraux. Une troisième contradiction oppose les classes sociales pour la direction de la contestation des pouvoirs en place et de leurs parrains néocoloniaux. En particulier, elle oppose la petite bourgeoisie d'une part, se refusant à relier le combat démocratique et le combat social, et les classes populaires, prolétariat et paysannerie pauvre, ayant intérêt à ne jamais dissocier les deux. En conclusion, nous pouvons dire que mépriser de manière gauchiste les questions démocratiques et nationales est une impasse. Ne pas relier ces questions à la question sociale est une impasse tout aussi importante. Si le combat se déploiera inévitablement dans des cadres et des rythmes nationaux, il intègre inévitablement une dimension régionale, continentale et mondiale. Le besoin d'unité de l'Afrique du Nord, le besoin de panafricanisme doit être un besoin anti-impérialiste et non une mode culturaliste et idéaliste. Ce sont les besoins du rapport de force qui relie les intérêts des peuples de la région et du continent. Nous avons à la fois besoin dans chaque pays de partis révolutionnaires et de fronts patriotiques et d'une solidarité anti-impérialiste panafricaine. Alors que faire? Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a quelques pistes en termes de besoins. Nous avons besoin, il faudra trouver les voies et moyens pour le faire, de renforcer les liens entre les forces politiques existantes, régionales et continentales, d'où la nécessité d'aller vers un forum permanent anti-impérialiste de toutes ses formes, de toutes ses forces. Nous avons besoin de produire des analyses concrètes de la situation concrète, puisque les choses évoluent très vite. Et donc nous avons besoin d'un espace de débat et de confrontation théorique et d'une revue commune d'analyse théorique anti-impérialiste, idéologique et politique. Nous avons également besoin d'agir en commun et donc d'instaurer des actions communes, même modestes, visibilisant la dynamique que nous devons enclencher. Axer notre travail dans chaque pays vers la construction indissociable d'une organisation politique populaire et paysanne, d'une part, et d'un front patriotique anti-impérialiste, d'autre part, tels sont les deux axes qui nous permettront d'apporter le complément du facteur subjectif à la réalité d'un facteur objectif qui mène à la révolution.
عايشين ورا سجون البنود اللي سجنين منا ما يتغير مش حاسين ولا نور الا سياج منها احنا شايفين سما لونها ازرق غيمة ابيض بالنص نجمات زكراك انت مخيط انا صامت عايش متفائل ما تعزل مني الامل بيجي ضار فاصل السور يدور انا مربوط فلسطين كجنين لحبل الطابور بالارض جذور شجر زيتون ضل يتولد وجدد وجدد قصور غصن ممدود السلام معروض الاحتلال ما يريد استسلام ليه انا اللي ما اله حرية لاني انا رافض اني اعيش بعبودية
وين ما رفت اشوف حدود السجن الانساني لاطفال العالم حرة وانا مالي حرية
وين ما رفت اشوف حدود السجن الانساني لاطفال العالم حرة وانا مالي حرية
احنا بندور على السلام بين قوات حرب رواد حرب معهم صرنا اولاد حرب نطلب الحرية من السجون المعنية انه نكون معيون اللي دايما معمية من التفرج عاطفال العالم الحرة دايما نضل بتدعرج للحياة المرة قواتنا شاطرين بس بتبهرج الكلام كلهم مدين تخرج بتعرج الاوطان احنا نستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بلطف ومش بعصف للحياة انولدنا ولما لقيناها مش بيدينا جربنا نخدها فمدنا وكل اللي طلبناه كان نفس واللي ضحينا عشانه برضو كان نفس انت قولي ليش اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حرية
وين ما رحت اشوف حدود السجن الانساني لاطفال العالم حرة وانا مالي حرية
ساعتي شايف الاحتلال مهدد ايده مش للسلام مش مصوى بلده يهديني عبل مش نقى
كمان الزرع
وجدار اللي فاصل
بيني وبين
اهلي ما مخليني اشوف ضوء السما وام الواحد وخمسين ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأخرة من امها
الهنود الحمر
متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا
بس حتى جيوش العالم كلها ما تقدر على الحرية
Je voudrais passer la parole maintenant au camarade Georges Ibrahim Abdallah qui nous a envoyé un message de la prison de Lannemezan en France. Et même si nombre de participants connaissent déjà un peu son itinéraire et son parcours militant, je voudrais rappeler très très rapidement la question entre guillemets de Georges Ibrahim Abdallah. Georges Ibrahim Abdallah est un militant communiste libanais qui a affirmé tôt la centralité et le lien entre le combat pour la libération de la Palestine et les luttes d'émancipation des peuples et du camp du travail dans le monde arabe. En 1978, déjà, il rejoint le Front populaire de la libération de la Palestine, puis la branche des opérations extérieures. Il devient un des membres dirigeants des FAL, Fraction armée révolutionnaire libanaise. Il est arrêté le 24 octobre 1984 à Lyon sous l'accusation de terrorisme et emprisonné depuis à Lannemezan en France. Alors qu'il est libérable depuis 1999, il est illégalement et illégitimement maintenu en prison depuis plus de 37 ans, sur exigence de l'État sioniste et des pouvoirs impérialistes états-uniens et français. Il est ainsi devenu l'un des plus anciens prisonniers politiques dans le monde. Le combat pour sa libération, qu'il faut poursuivre, n'est pas seulement juridique. Comme il le dit lui-même dans une de ses déclarations, je cite, « La situation des prisonniers révolutionnaires n'est que formellement fonction des décisions judiciaires. Ce sont toujours des instances politiques qui ont des limites à la fois et le contour, conformément à la logique générale d'une justice au service de l'ordre capitaliste. Georges Ibrahim Abdallah est devenu aujourd'hui un des symboles des luttes de la libération de la Palestine, du combat contre le sionisme, l'impérialisme, le capitalisme et les États réactionnaires. Dans ses vœux de l'année 2020, je me rappelle qu'il nous avait dédicacé le poème du poète palestinien Samih al-Qasim, au titre fort significatif, je résisterai. C'est au calme. Décidément, il est de nos luttes, nous sommes de son combat. Je passe la parole à la camarade qui va lire le message qui nous a été adressé.
Voici donc la déclaration de Georges Abdallah. Chers camarades, chers amis, permettez-moi au début de cette courte intervention de vous saluer tous de derrière ces barreaux et sur leur avant-garde pour mieux contrer les récents développements aux frontières du pays et dans toute la région. Certainement l'Algérie, notre Algérie garde une place toute particulière dans nos cœurs et notre mémoire collective. C'est le cas dans tout le monde arabe et dans pas mal de pays africains. Certes, on n'est plus au début des années 70, quand Alger était la capitale du tiers-monde, la ville phare du mouvement des non-alignés, quand les révolutionnaires du monde entier y étaient accueillis. Ce qui, à l'époque, fut dire à Amilcar Cabral, les chrétiens vont au Vatican, les musulmans à la Mecque, et les révolutionnaires à Alger. Il n'empêche qu'après la destruction de l'Irak, de la Syrie, de la Libye et du Yémen, c'est le seul pays arabe qui reste encore debout, bien que, comme pour les autres, c'est une bourgeoisie d'État d'un type particulier qui le dirige. Les masses populaires algériennes, et derrière elles, toutes les masses arabes, même martyrisées, sauront faire face, comme elles nous ont toujours appris à faire face dans les moments les plus difficiles. Naturellement, on ne peut pas ignorer ou sous-estimer la dangerosité, la complexité de la situation, non seulement aux frontières du pays, mais aussi et surtout dans tout le monde arabe. La capitulation de la bourgeoisie arabe, d'une manière générale, et plus particulièrement celle de l'Arabie saoudite et des protectorats du Golfe et du Maroc, pour ne pas en citer d'autres, et leur alignement sans phare dans le camp sioniste accentue toujours plus les pressions sur tous ceux qui résistent, d'une manière ou d'une autre, aux exigences des impérialistes, en particulier américains et européens. Dans les conditions politiques actuelles, où les effets de la crise structurelle qui secoue l'ensemble du système mondial s'entremêlent et interagissent, aucun espace géopolitique, même le plus, a ses violentes répercussions. Force est de constater, camarades, que de nos jours, s'acquitter des tâches nationales et affronter les multiples facteurs qui secouent les bases de diverses entités arabes est plus que jamais conditionné par la capacité des masses populaires et de leur avant-garde à situer tous ces facteurs dans le cadre de la crise globale du système mondial. Cette dernière est visible à tous les niveaux, partout dans le monde. Camarades, plus la crise se développe et plus les fondés du pouvoir du capital mondialisé, à savoir les dirigeants de ces États impérialistes, ces fonctionnaires du capital, augmentent leur intervention dans les périphéries, accroissent leur pression sur les peuples dominés et font chanter les régimes bourgeois en place. Les récents développements dans la région sont plus qu'éclairants à ce propos. Certainement, il y a place pour d'autres futurs que la soumission aux diktats impérialistes, dont on voit à longueur de journée les néfastes conséquences de leur mise en œuvre sous forme de destruction des villes entières et dépeçage des États quelque peu contestataires, avec les cortèges de morts, de déplacés et autres migrants. Certainement, les masses populaires algériennes sont autrement plus enclins à la résistance qu'à la soumission, à qui que ce soit, surtout quand il s'agit d'une entité sioniste comme celle qui martyrise le peuple palestinien et cherche par tous les moyens à le détruire depuis plus d'un siècle. Bien entendu, le peuple sahraoui, dans le cœur de tous ceux et celles qui se battent pour la liberté et la dignité, ne peut être laissé seul face à cette sale entreprise de marchandage avec telle ou telle puissance impérialiste. Camarades, certainement, c'est toujours en fonction de votre capacité à contrer toute cette strate de parasites qui cherche par tous les moyens dans nos pays à soumettre notre existence aux intérêts du capital mondialisé que nos masses populaires seront victorieuses. La solidarité, toute la solidarité avec les peuples palestiniens et sahraouis, abat l'impérialisme et ses chiens de garde sionistes. Abat l'impérialisme et ses laquais, tous ces réactionnaires arabes. Honneur aux martyrs et aux masses populaires en lutte, le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à tous ceux et celles qui s'y opposent dans la diversité de leur engagement. À vous tous, mes salutations révolutionnaires. Votre camarade, Georges Abdallah.
صار لي زمان صار لي زمان ما شفتك يا ابني صار لي زمان صار لي عمر عم بحلم يا ابني وبقطف قهر صار لي زمان ناطرة ترجع بيتك وأحضنك مثل أيام زمان قالوا اسمك سجين قلت لهم اسمه البطل اسمه عراس الجبل بيشعل فينا النار كان الرفاق مثل وعد الأرض ما خذل يا سجن يا معتقل لابد ما تنهار صار لي زمان ما شفتك يا ابني صار لي زمان صار لي زمان ما شفتك اه صار لي زمان صار لي عمر عم بحلم يا ابني وبقطف قهر صار لي زمان ناطرة ترجع بيتك واحضنك مثل ايام زمان.
Je vais à l'instant lire la traduction du camarade Adel Samara qui est intervenu de Ramallah en Palestine occupée. Le Sahara, la Palestine, Georges Abdallah et la normalisation. Tout d'abord, je salue les grandes nations occupées de l'océan Atlantique au Golfe Arabique et tous ceux qui en font partie. Un salut internationaliste à tous ceux qui appartiennent à un territoire qui s'est libéré et ou qui combattent toujours. Un salut à vous qui êtes sur le champ de bataille au niveau local, national et international. Mes respects et mes salutations à tous les internationalistes, en anglais, dans son intervention. Pourquoi ai-je commencé par la grande nation ? Pas seulement parce qu'elle abrite la plus petite ethnie et la plus grande nationalité, mais parce que c'est l'ensemble géographique qui a connu les plus longues attaques ininterrompues dans l'histoire. Et le plus inquiétant est que son peuple n'a pas juste une juste conscience de cette réalité. Cette nation qui s'étend de Rabat à Zoha est gouvernée par des dirigeants eux-mêmes dirigés de l'extérieur, des bandits sans foi ni loi. Évidemment, ce sont des laquais sous influence étrangère, suicidaires du fait même de l'équation qui les anime et qui est la suivante. Nous vous tuons, tuez-nous si vous le pouvez. Ce caractère suicidaire qui les anime est une copie conforme de celui de l'entité sioniste, sans aucun doute, ni distinction. En outre, la sixième colonne intellectuelle, formée exclusivement dans les milieux académiques et du renseignement de l'Occident capitaliste, des deux côtés de l'Atlantique, théorise leur légitimation. Et nous tous, vous comme moi, avons contribué indirectement à tout cela et nous le permettons encore tant que nous n'opérerons pas une prise de conscience radicale. Ainsi, combien d'Arabes connaissent la question du Sahara occidental ? Pourtant, cette question est, elle, bien connue des colonialistes espagnols qui, le jour de la conférence de Madrid de 1991, ont rassemblé tous nos dirigeants dans une salle où se trouvait la statue d'un Européen coupant la tête d'un Arabe. Et tous ces dirigeants sont restés là, assis comme des moutons, alors que c'est de là que sont nés à Madrid les accords éhontés d'Oslo. Combien d'Arabes savent que le dirigeant du Maroc n'est pas l'unique responsable de l'assassinat de Bambarka ? Combien d'Arabes connaissent les raisons de cet assassinat ? Et pourquoi ? Bambarka n'a pas été éliminé parce qu'il était contre le régime, ni parce qu'il faisait partie de l'avant-garde de la tricontinentale seulement, mais il s'agissait avant tout de viser la nation arabe pour la purger de tout ce qui pouvait participer à sa grandeur. Personne, à l'exception de quelques-uns, ne s'est soulevé après l'assassinat de Bambarka, alors que des milliers de tonnes de discours ont été faits après l'assassinat de l'entrepreneur Hariri, ou bien que de Khashoggi, et même d'Assad. L'impérialisme et ses vallées lient les questions de Palestine, du Sahara occidental et de la normalisation, alors que nous ne le faisons pas assez. N'est-ce pas étrange ? Les dirigeants arabes et palestiniens mentent en disant qu'ils n'approuvent pas le régime égyptien de Sadat, de Moubarak, des militaires, de Morsi, de Sisi, parce qu'ils reconnaissent l'antisioniste Ashkenaz. Non, la question est beaucoup, beaucoup plus large, car le but est d'isoler l'Égypte de la grande nation pour que celle-ci reste fragmentée. L'Égypte qui a soutenu la révolution algérienne en a été sortie pour ne pas soutenir la révolution au Sahara. Et une tentative est en cours pour éloigner l'Algérie de son rôle et de son devoir. L'Irak a été dévié de son rôle dans la nation arabe. La Syrie et le Yémen sont en train de subir le même cours. L'Amérique ordonne aux Arabes subordonnés de normaliser leurs relations avec l'entité sioniste, c'est-à-dire qu'elle les mobilise dans la guerre contre la Palestine. Elle offre ainsi au chef du Maroc d'être chef du peuple sahraoui en échange de sa mobilisation contre la Palestine. Cette promesse est similaire à la déclaration de Balfour, car Trump n'a aucun droit et le dirigeant du Maroc n'en est pas digne. C'est une promesse qui pousse de nouveaux Arabes, de notre peuple du Maghreb, à la soumission, à la pauvreté, au retard et à l'oppression d'une monarchie absolue qui est l'ennemi du peuple, pendant que d'autres Arabes au Mashhad sont combattus. Trump n'a rien de proposé d'autre aux Arabes que de se soumettre à un régime dépendant et au détriment de la Palestine. La voie juste, en réalité, est que les Arabes, sous l'oppression et le retard, devraient rejoindre les Arabes de la révolution, de la libération et du développement pour aller au socialisme. Oui, c'est ainsi qu'ils voient le Maghreb et le Machrek de la grande patrie. Il doit être clair que tout Arabe et tout Palestinien qui soutient le client réactionnaire qu'est le régime dépendant du Maroc contre le Polisario est lui-même un agent de la contre-révolution. L'Occident et le sionisme planifient, parlent et considèrent nos territoires comme une seule unité, comme les Arabes, comme une nation. Tandis que la plupart d'entre nous, croyons, parlons et agissons sur la base d'un pays petit et fragmenté. N'est-ce pas étrange comme nous sommes entrés dans la défaite et normalisés comme ils le souhaitent? La normalisation ne concerne pas seulement l'entité sioniste. C'est aussi de se considérer comme des morceaux de verre brisé, pays, nation. Cette perception de soi est une guerre contre soi qui aide à la contre-révolution dans son effort pour nous vaincre. C'est l'intériorisation de la défaite. Voilà le vrai sens de la normalisation. Malgré cela, les intellectuels de la sixième colonne bavardent sur le fait que l'annexion du Sahara occidental par le roi du Marzen est une affaire nationale. C'est-à-dire soumettre ceux qui ont combattu, qui ont goûté à la liberté parfumée de la poudre à canon, à un dirigeant dans le projet et la subordination à l'entité sioniste Ashkenaz, alliée aux forces politiques qui se réclament de la religion, lesquelles ne croient pas en la patrie, mais au pouvoir, à l'argent et à la soumission à l'impérialisme. Alliés, mais en réalité instruments du dirigeant du Maroc, le parti politique qui se réclame de la religion, au lieu de se battre pour se libérer, Sebta et Melilla pousse le Marocain à combattre les Sahraouis pour que tout le monde devienne esclave. La seule voie de la libération, du développement et du socialisme, et non de la dépendance et l'unité arabe. Oui, les confessionnalistes et les sectaires de tous bords sont plus conscients de leur cause que nous. Et les régionalistes sont plus déterminés que nous. Qui a tué Naji Ali? Et qui s'est demandé pourquoi il avait été assassiné? Les renseignements britanniques ont écrit, entre guillemets, « Nous avons examiné plus de 40 000 de ses œuvres et nous n'avons trouvé aucune raison à son assassinat. » Menteur impérialiste, vous connaissez bien le tueur et vous avez facilité sa fuite du pays. Aujourd'hui, il se trouve à Ramallah, totalement libéré de sa conscience. Et vous voulez tuer le peuple sahraoui? Et si vous le pouviez, vous auriez tué la résistance ferme de Georges Abdallah? Plusieurs courants de pensée ont pénétré notre conscience et l'ont peu à peu façonné à leur souhait et nous sommes tombés dans une sorte de coma. Nous croyons que nous luttons? Oui, certes, nous luttons, mais c'est eux qui récoltent. Rappelons quels sont les courants de pensée qui se sont tous accordés au cours de cette même idée de combattre le panarabie. Premièrement, l'impérialisme qui a accentué le morcellement de notre nation que les colons ottomans ont légué au pays impérialiste dans un état de délabrement complet pour réduire l'ensemble à de petites entités territoriales, que ce soit au Mashrek ou au Maghreb. Deuxièmement, la social-démocratie. Troisièmement, les forces politiques qui se réclament de la religion, qui elles aussi n'ont d'autres ennemis que le panarabisme, qui se décline comme arabe, amazigh, kurde, yézidi, syriaque et bien d'autres ethnies. Ces forces politiques qui se réclament de la religion ne sont loyales qu'envers le calife, qui se trouve aujourd'hui à Washington, à la Maison-Blanche et au sein de l'entité sioniste, et non pas à l'entrée. Quatrièmement, s'ajoutent à cela trois courants révisionnistes, à savoir le révisionnisme de Moscou qui a considéré d'une part l'entité sioniste comme un peuple, une nation et un État socialiste, et d'autre part la nation comme une nation en voie de formation. Staline était grand, sauf pour les Arabes. Le révisionnisme trotskiste, courant dont presque toutes les composantes politiques sont en complète adéquation avec le sionisme. Enfin, n'oublions pas de citer aussi le révisionnisme eurocommuniste. En résumé, que résulte-t-il de tout cela? Les révolutionnaires de la Mauritanie jusqu'à la ville de Nasser al-Sayed à la Mecque s'appuient sur une colonne vertébrale fêlée, sans dimension panarabique ou si vous préférez sans dimension nationaliste. Or, quoi de mieux pour les régimes de la désunion qui occupent notre grande nation que ce cadeau qui, dans cette conception, serait dû à ces trois dimensions. Premièrement, seul compte mon pays et son seul territoire. Deuxièmement, absence complète de la dimension nationale arabe. Troisièmement, un internationalisme de façade. Camarades, un véritable État socialiste authentique ne peut se fondre que sur la base d'un État-nation puissant. Pour cette question, revenons à l'introduction du manifeste du Parti communiste. ainsi qu'à l'expérience de la Chine où, malgré la déviation politique connue, le maoïsme a établi un État-nation fort qui a su résister. Les bolcheviks auraient-ils été victorieux s'ils étaient dans une petite entité ? Les petites entités se trouvent d'emblée comme dépendantes, sauf dans de rares conditions, de rares cas, en présence d'un système révolutionnaire. Pour cette période de libération et de la révolution, nous ne devons pas comprendre le marxisme en opposition au nationalisme. Relisons les écrits de Fidel Castro quand il évoque cette trois dimensions. Relisons aussi les écrits de Georges Habès. Nous n'entrerons pas dans le temple de l'international tant que nous resterons morcelés, ignorants du panarabisme, mais avec lui, nous pouvons retrouver une place centrale. La libération de la Palestine ne se réduit pas à la seule libération des Palestiniens. La résistance du Sahara occidental ne se concerne pas que les seuls Sahraouis. L'opposition à la normalisation avec l'entité sioniste fait partie de l'opposition à la normalisation avec les régimes compradors arabes dépendants dans le régime des dirigeants de Rabat. Cela fait partie de l'opposition de la normalisation avec l'impérialisme en général. L'antinormalisation consiste à bloquer l'intériorisation de la défaite. Les flammes du pétrole n'ont pas à rôtir notre chair, mais à rôtir celle du al-mutabbi'in, c'est-à-dire ceux qui normalisent avec l'entité sioniste. Ni Georges Ibrahim Abdallah, ni Naji Ali, ni Ben Barka, ni Nasser Saïd n'appartiennent à tel ou tel pays. Nous sommes tous engagés, sans distinction, dans un combat défensif contre deux occupations qui ne sont pas différentes. L'occupation de nos dirigeants, des classes dirigeantes, et l'occupation de l'impérialisme et du sionisme. Enfin, pour que l'Algérie soit fidèle à ses martyrs, elle doit protéger le Sahara et forcer chacun à entrer dans la fédération du Grand Maghreb. Et si cela n'est pas possible, qu'elle crée une fédération avec le Sahara. Son peuple en lutte peut l'imposer. Vive le peuple inébranlable du Sahara occidental. Vive la Palestine, vive l'arabisme, vive l'internationalisme qui s'enracine là où il est. Liberté pour Georges Ibrahim Abdallah, symbole de la révolution du troisième millénaire. Gloire à la résistance palestinienne. Voilà, c'était donc là, pour nos amis et camarades francophones, la traduction de l'intervention du camarade Adel Samala de Palestine occupée.
Inscrit, je suis arabe. Le numéro de ma carte, 50 000. Nombre d'enfants, 8. Et le 9e arrivera après l'été. Et te voilà furieux. Inscrit, je suis arabe. Je travaille à la carrière avec mes compagnons de peine. Et j'ai 8 bambins. Leurs galettes de pain, les vêtements, leurs cahiers de colliers, je les tire des rochers. Oh, je n'irai pas quémander le mône à ta porte. Je ne me fais pas du petit au porche de ton palais. Et te voilà furieux.
Inscrit, je suis arabe. Mes cheveux, couleur du charbon. Mes yeux, couleur du café. Signe particulier, sur la tête, un keffiyeh. Avec son port d'eau bien serré. Et ma pomme est dure comme une pierre. Elle écorche, c'est lui qui la sert. La nourriture que je préfère, c'est l'huile d'olive et le thym. Mon adresse, je suis dans un village isolé, où les rues n'ont plus de nom. Et tous les hommes, à la carrière comme au champ, aiment bien le communisme. Inscrit, je suis arabe, et te voilà furieux.
Inscrit, que je suis arabe, que tu as raflé les vignes de mon père et la terre que je cultivais, moi et mes enfants ensemble. Tu nous as pris, hormis pour la survie de mes petits-fils, les rochers qui voici. Mais votre gouvernement va les saisir aussi.
donc inscrit en tête du premier feuillet que je n'ai pas de haine pour les hommes, que je n'assaille personne, mais que si j'ai faim, je mange la chair de mon usurpateur. Gare à ma fureur.
Je voudrais maintenant passer la parole au camarade représentant du Front Polisario et de la République arabe sahraoui démocratique en France. La France ne reconnaît pas la République arabe. Elle a reconnu à un certain moment, il le précisera lui-même, le Front Polisario, mais qu'en est-il depuis ? Camarade Mohamed Sidati, à toi la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, mes premiers propos sont de remerciements et de salutations à celles et à ceux qui ont veillé à l'organisation de cette rencontre. De par ces temps difficiles, mais des temps de résistance et de détermination. Et on ne peut qu'apprécier les efforts déployés pour nous faire rencontrer, pour débattre de la présente situation et de nos combats respectifs, les combats de nos peuples pour affronter l'agression et l'impérialisme. Je vous salue tous donc. Bien sûr, avec votre permission, je voudrais saluer Georges Abdallah, bien sûr. Et je voudrais juste vous rappeler un fait historique qu'on doit retenir tous. En 1972, lorsque Aziz Mnebbi était secrétaire, élu secrétaire général de l'Union nationale des étudiants du Maroc, alors la première position adoptée au Maroc par l'Union des étudiants a été sur le Sahara et pour la première fois un soutien clair à l'autodétermination du peuple de Sahara occidental, je cite, a été exprimé, c'est vous dire l'importance de la présence parmi nous aujourd'hui de Abdelaziz Mnebbi, que je voudrais saluer très affectueusement. Le point de départ qu'il convient d'inscrire, bien sûr, comme vous l'aviez dit avant moi et dans ces interventions toutes perspicaces les unes que les autres, le point du départ est qu'il convient d'inscrire la lutte du peuple sahraoui, de son mouvement de libération nationale, le Front Polisario, depuis le début et avant même le déclenchement de la lutte armée en 1973, puisque le peuple sahraoui a déclenché sa lutte armée contre la présence coloniale en 1973, même avant, il était très clairement établi pour nous en tant que sahraouis que la résistance titanesque que nous mènerons est une lutte pour la liberté, la libération, l'émancipation, mais il se voulait également une lutte anti-impérialiste. La lutte contre le colonialisme généré par l'impérialisme d'ailleurs, puisque l'expansionnisme marocain n'est qu'une excroissance de l'impérialisme. Oui, au Sahara occidental, aujourd'hui, on se bat contre l'occupation et l'agression et contre la réaction, puisque le système qui envahit le Sahara, qui perpètre cette agression, qui occupe illégalement ce territoire, est un système néocolonial mené par la réaction. Et je dois dire que dans ce cas, on peut évidemment établir tout un parallèle entre la cause palestinienne et la cause sahraoui, ce qui paraît très évident déjà des interventions qui m'ont précédé. Il s'agit de deux peuples qui aspirent à la liberté, des peuples dont les territoires sont illégalement occupés, des peuples qui souffrent de violations du droit international, qui font face à l'agression, à l'occupation par la force, la colonisation du peuplement et, bien sûr, qui se proposent de rendre les citoyens minoritaires dans leur propre pays. Puis, bien sûr, nous faisons face à des gouvernements, à des régimes puissamment soutenus par l'administration de Trump, c'est-à-dire l'administration américaine. Donc, il s'agit de gouvernements réactionnaires et fascisants. Et bien sûr, donc nous souffrons cette oppression et cette répression. La monarchie marocaine et le gouvernement réactionnaire de Netanyahou. Dans le cas du Sahara occidental, comme vous l'aviez souligné, s'agissant d'un problème de décolonisation, le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique aujourd'hui. Le peuple sahraoui se bat pour un droit, somme toute légitime, reconnu et consacré par les chartes internationales, à savoir ce droit inaliénable à l'autodétermination. L'Union africaine, comme les Nations unies, comme d'autres organisations, l'ont reconnu, l'ont consacré. Mais bien sûr, le Maroc soutenu par les forces impérialistes, et lorsque je dis impérialiste, je me réfère à la France, aux États-Unis, qui dans le cadre d'une opération de brigandage international essaye de troquer le Sahara occidental en marchandage, la Palestine contre le Sahara occidental contre la Palestine, etc. Ce qui est grave à mon avis aujourd'hui. Quand on observe le silence complice de certains pays arabes, on comprend l'affiliation de ces derniers au cercle impérialiste à travers de gouvernements soumis et avec bien sûr la complicité active de gouvernements racistes, notamment celui de Netanyahou et de la monarchie féodale du Maroc. Trump et son administration, Trump qui s'en va et j'espère son retour, ont illustré par leurs actes néfastes ces tentatives de troc du Sahara occidental de la Palestine et font que leur tentative est d'entraîner d'autres pays arabes satellites à accepter de normaliser leurs relations au détriment du peuple palestinien, au détriment des droits fondamentaux des peuples palestiniens et sahraouis. Ce qui démontre le stade où nous en sommes et, bien sûr, les tentatives de ces forces impérialistes et réactionnaires. Donc, nous sommes, en tant que sahraouis, mais aussi palestiniens, aux avant-postes de cette lutte anticoloniale, anti-néocoloniale, mais aussi et surtout anti-impérialiste. Au Sahara occidental, vous êtes au courant, la reprise de la lutte armée est là, le combat se poursuit, le Maroc essaye de le dissimuler et de cacher cette réalité, mais vous dire maintenant, nous nous trouvons tous, et le peuple palestinien et le peuple sahraoui se trouvent dans une même tranchée, cela ne suffit plus. Il faut insister sur le fait qu'il convient de porter la lutte plus en avant et savoir que même quand les peuples ne se reconnaissent pas entre eux ou ne reconnaissent pas qu'ils sont victimes d'une même agression, il se trouve que l'agresseur, l'occupant, les forces réactionnaires, les forces impérialistes, elles, ils ont bien identifié les ennemis et nous traitent en ennemis. Et partant, quand ils nous traitent en ennemis, aussi bien au Sahara occidental ou en Palestine, donc nous sommes la cible à abattre. Je crois que c'est une leçon essentielle et partant donc notre résistance est commune. Je tiens à vous remercier et à vous dire vive la lutte des peuples et vive notre combat. Je vous remercie.
Je voudrais sans plus tarder passer la parole au camarade Roland Diagne Faudet. Camarade Roland, à toi la parole.
Je vais essayer de faire le coup plus court possible pour dire l'essentiel. Apporter donc en fait le salut en particulier de Ferniente, qui est le journal ouvrier et populaire au Sénégal, dont je suis un des animateurs depuis 1979, qui est d'ailleurs un peu la raison pour laquelle je suis un peu au départ, on peut le dire comme ça, d'une certaine façon réfugié en France. Après avoir été arrêté au Sénégal en 1983, où j'étais fonctionnaire et enseignant en tant que tel. Quoi. Donc j'étais obligé effectivement de me replier ici. Pour dire quoi exactement? D'abord, en fait, se féliciter du message de notre camarade Georges Ibrahim Abdallah. Ça, c'est important, très clairement. Dire que aux camarades effectivement de Palestine et aux camarades du Sahara, oui, il y a eu effectivement dans le sillage des mouvements de libération nationale en Afrique lors de la première phase, et là je parle plus en regardant du côté de l'Afrique au sud du Sahara, donc l'Afrique noire, des mouvements et des préoccupations centrales, mettant de façon centrale la question effectivement de la Palestine, parallèlement d'ailleurs à la question de l'Afrique du Sud, de la partie de l'Afrique du Sud à l'époque, et la question effectivement du Sahara, dernière colonie, comme l'a dit tout à l'heure notre camarade du Sahara. Il faut le dire objectivement, aujourd'hui, ces deux questions, notamment en Afrique noire, ont connu des reculs. Il y a une ligne de résistance qui va de l'Afrique du Sud, Mozambique, les pays d'Afrique australe, en gros, jusqu'en Angola. Mais l'Afrique de l'Ouest, là, en fait, est de moins en moins sensible à ces questions-là, après une période, effectivement, de recul important. Des forces, je dirais, révolutionnaires, progressistes, africaines, etc. Ces forces ont été fortement laminées par la vague libérale des années 80. Vague libérale qui a débouché sur, effectivement, des trahisons. Beaucoup de gens aujourd'hui, effectivement, qui sont dans des gouvernements africains au sud du Sahara sont des anciens de la gauche. C'est une réalité, concrètement. Et je pense que ce n'est pas une particularité, effectivement, de chez nous. Mais c'est une réalité. Et que donc, cette réalité-là à laquelle nous sommes confrontés, après une longue période, effectivement, de recul, semble commencer à se transformer en nouvelle vague. C'est ce que j'appelle, en fait, une seconde phase de la lutte de libération nationale en Afrique. Oui, quand on regarde un peu sur le plan géopolitique ou le monde actuel, on se rend compte que l'Asie a décollé. L'Amérique du Sud se cherche. Il y a des forces progressistes qui sont au pouvoir dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, dont un des derniers pays qui a été victime d'un coup d'État fasciste, hein, celui de la Bolivie, et qui vient de renouer effectivement à nouveau avec le cours de la libération nationale anti-impérialiste, etc. En remettant par des élections effectivement au pouvoir le MAS, le parti de Evo Morales. L'Afrique semble, quand on regarde comme ça, être un peu dans... Allez, je vais citer Fukuyama, dans les marécages de l'histoire. Sauf que je pense qu'au-delà, effectivement, de cette pointe de l'iceberg qui semble effectivement être le marécage de l'histoire, il y a quelque chose qui est en train de se passer en Afrique, avec une sorte de réveil d'une jeunesse patriotique qui a pris la forme, effectivement, d'implication dans un premier temps dans des mouvements dits, de mouvements de la société dite civile, là, qui s'est de plus en plus politisé et qui, par-ci, par-là, fait émerger effectivement une sorte d'alternative à la formule utilisée par Thatcher à l'époque. There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative au néolibéralisme. Sauf que ces peuples, ces pays qui ont été victimes effectivement des plans d'ajustement structuraux libéraux du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en particulier, eh bien, ont capté dans un premier temps, ont fait rêver dans un premier temps une bonne partie et la majorité de la jeunesse intellectuelle, mais qui au bout d'une vingtaine d'années, entre 1980 et la fin des années 90, eh bien, on commençait à se désillusionner progressivement, effectivement, sur « There is no alternative » de Thatcher et de Reagan. Et cette jeunesse a commencé à renouer avec un discours patriotique, souverainiste, nationaliste, en opposition avec la gouvernance néolibérale des régimes néocoloniaux africains. Et c'est, à mon avis, un élément qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Je pense que c'est un phénomène qui est en train de se passer partout. Après, maintenant, c'est vrai. Comme l'a exposé Saïd tout à l'heure, il y a les deux types de déviations, à savoir d'un côté, effectivement, la déviation qui consiste à dire, à ne voir que l'aspect du retour, effectivement, au patriotisme et à sous-estimer les capacités en fait, de manipulation de l'impérialisme. Mais l'autre déviation aussi, c'est de ne voir que, effectivement, la capacité de manipulation de l'impérialisme et de sous-estimer l'importance de cette prise, de ce processus de prise de conscience dans un contexte particulier quand même, où le capitalisme impérialiste de l'Occident, triomphant des années 90, eh bien, se révèle de plus en plus décadent, en putréfaction, pour reprendre l'expression qui ne vient pas de moi, qui est de Lénine, capitalisme, impérialisme, l'impérialisme en putréfaction, et qui a de moins en moins la faculté de tromper, non seulement les peuples, mais aussi de tromper même son propre peuple, ses propres peuples. Très concrètement, comme on le voit avec le phénomène des gilets jaunes en France et les explosions des luttes de classe aux États-Unis, qui vont de plus en plus s'amplifier, d'ailleurs, très clairement, et qui vont devenir de plus en plus frontales. Le capitalisme est décadent, l'impérialisme est décadent, et à mon avis, ça, c'est un élément qui me semble important à prendre en compte. Et je constate, moi, en tout cas, que l'impérialisme est décadent, et sa décadence se manifeste de multiples manières, face aussi à ce que Saïd a appelé dans son exposé tout à l'heure les pays émergents, que je vais appeler moi, précisément, dont certains sont des pays rescapés du camp socialiste qui a été vaincu dans les années 90. Parce que c'est vrai qu'on a trop tendance à regarder le camp socialiste vaincu dans les années 90 comme étant le camp socialiste en général. Non, c'était le camp socialiste d'Europe. Cuba faisait partie du camp socialiste. La Chine faisait partie du camp socialiste, même s'il y a eu des divergences avec l'Union soviétique à l'époque, etc. Le Vietnam faisait partie du camp socialiste. La Corée du Nord faisait partie du camp socialiste. Mais ceux-là n'ont pas été vaincus, hein. Ils ont résisté. Et Cuba est une puissance médicale. Hein. La Corée est une puissance nucléaire défensive. La Chine est une puissance économique. Aujourd'hui, elle devient la première puissance économique du monde. Avec le Vietnam aussi, qui suit son bonhomme de chemin en termes de développement économique et national. Je pense que ces expériences-là, au-delà des débats qui peuvent et des interrogations que les uns et les autres peuvent soulever, ces expériences-là sont à regarder de près. Mais retenons que pour nous autres, en Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord, que ce soit l'Afrique au sud du Sahara, je pense, honnêtement, que la défense et le combat dans cette seconde phase de libération nationale, portée par une jeunesse de plus en plus rebelle, patriotique, avec un discours souverainiste, et qui réaffirme effectivement de plus en plus son opposition en fait à la domination impérialiste, ne serait-ce que à travers effectivement la contestation du franc CFA, par exemple, aujourd'hui, très forte, et qui est en train de gagner le cœur, mais aussi l'esprit de la majorité des populations africaines, notamment des pays, effectivement, de la zone CFA. L'opposition aux APE, aux accords de partenariat économique, prise en charge, effectivement, par des mouvements de plus en plus forts. L'opposition aux accords de coopération, de façon générale, et récemment, eh bien, la montée en puissance, effectivement, de la nécessité que les armées d'occupation militaire du Sahel, de Serval à Barkhane, quitte et ça nous parte de l'Afrique, la montée en puissance de cela, mais aussi même des régimes qui ne sont pas des régimes révolutionnaires, le Nigeria par exemple, qui résiste à Boko Haram, le Cameroun, même de Biya, qui résiste à Boko Haram, ce qui vient de se passer en République centrafricaine, avec des élections manifestement où la France tentait de mettre en avant quelqu'un qu'ils ont renversé il y a quelques années, pour essayer de renverser effectivement l'actuel gouvernement effectivement centrafricain. Tout ça, c'est ce que moi j'appelle le syndrome effectivement de ce qui s'est passé avec Kadhafi. L'assassinat de Kadhafi a créé un traumatisme dans les chefs, dans les régimes néocoloniaux africains, dont l'onde de choc va du Tchad, Centrafrique, Cameroun, même le Gabon, où la France a tenté de placer contre le fils de Bongo, qui était pourtant l'homme de la France-Afrique, eh bien, un candidat, Jinping, jusqu'à Talon, au Bénin, où la France a placé, effectivement, un francophile de la première heure contre, effectivement, l'actuel président de Talon, sans que, effectivement, tous ces gens-là, bien sûr, sont encore dans les réseaux France-Africains. Ces contradictions-là, entre, en fait, certains secteurs néocoloniaux, produits de ce que j'appelle, effectivement, le syndrome ou le traumatisme, effectivement, de ce qui s'est passé avec Kadhafi, concrètement, eh bien ça c'est à prendre en compte effectivement dans la réflexion et la prise en compte des évolutions qui sont en train de se faire et qui mettent en avant la notion et la nécessité aujourd'hui de revendiquer pour les peuples africains qui se mobilisent de plus en plus dans la seconde phase de libération nationale actuelle, de revendiquer le multilatéralisme pour briser l'unilatéralisme dans le rapport hégémonique de l'Occident, États-Unis, Union européenne, France-Africain et US-Africain, Eure-Africain, concrètement. Le multilatéralisme, et de ce point de vue, effectivement, les investissements chinois jouent un certain rôle à ce niveau-là. La présence de plus en plus importante et l'appel à la présence de plus en plus importante de la Russie, par exemple en Centrafrique, la Russie a bombardé, effectivement, des groupes qui avaient été agités par la France. Hein. Il faut le dire très clairement. Les Séléka là et les anti-Barakat qui se tuaient entre eux, chrétiens et musulmans, se sont unifiés pour essayer d'empêcher la tenue de l'élection. Parce qu'entre-temps, effectivement, dans le cadre du nouveau multilatéralisme que certains des systèmes néocoloniaux, des gouvernements néocoloniaux ou semi-néocoloniaux, je dirais effectivement, pour les différencier de ceux qui sont totalement serviles et soumis. Ça, c'est des réalités effectivement qu'il faut prendre en compte effectivement en Afrique. C'est là où je pense effectivement qu'il est important que quand on réfléchit ensemble sur la problématique effectivement de ce qui se passe au Mali, là, l'occupation militaire effectivement du Sahel, que moi j'avais un peu annoncé dans un article en 2010, hein, c'est-à-dire à peu près un an avant effectivement l'intervention barbare effectivement des impérialistes occidentaux là pour aller assassiner Kadhafi, quoi. Ça se sentait, ça se voyait très clairement que c'était l'objectif, effectivement, un des objectifs. Une des raisons pour lesquelles, effectivement, le nouveau cycle des guerres impérialistes, c'est cela. C'est, effectivement, on est en train de perdre la bataille économique face, effectivement, aux pays émergents. Rescapés des camps socialistes, hein, comme la Chine, il faut le dire très clairement, eh bien, on va occuper militairement les sources de matières premières stratégiques pour imposer l'accès à la Chine, effectivement, dans son développement économique, lui imposer, effectivement, ou l'empêcher d'accéder directement, effectivement, à ces matières premières, ou d'être, en fait, les intermédiaires, ou les voies de passage incontournables, effectivement, pour pouvoir que la Chine accède dans son projet de développement économique à ces matières premières stratégiques dont la Chine a besoin pour se développer, bien sûr. Ça, c'est un enjeu important, très clairement, à ce niveau-là, et je pense qu'il faut prendre conscience que les mobilisations de plus en plus importantes au Mali pour demander de fait le départ de l'armée française effectivement du Mali, parce que le peuple malien découvre après qu'on lui ait fait agiter les petits drapeaux bleu, blanc, rouge pour accueillir effectivement l'intervention de Hollande à l'époque, eh bien, à l'image de leur chanteur, là, le grand chanteur national, là, Salif Keita, ils découvrent effectivement qu'ils ont été trompés. Que c'est une marchandise complètement pipée qu'on leur a vendue, qui consistait effectivement à créer une situation afin de, comme prétexte effectivement à une intervention militaire de la France. Donc d'où la transformation de Serval en Barkhane. Barkhane, c'est quoi? C'est les dunes qui se déplacent, hein, tout le long du Sahel, très clairement. Donc, je pense que la recherche d'une alliance panafricaine contre effectivement le terrorisme djihadiste, c'est une question qui est de plus en plus poussée et je pense que posée, et je pense que les forces progressistes, les forces qui veulent briser la domination unilatérale sur l'Afrique, très concrètement, doivent rechercher et mettre en avant, y compris vis-à-vis de leur propre État, qu'il soit néocolonial ou moins néocolonial selon les États en présence, la revendication effectivement d'une alliance panafricaine pour trouver une solution panafricaine, nationale et panafricaine, effectivement, à la question du djihadisme. Vous me permettrez deux mots sur cette question, effectivement, du djihadisme. Là.
Camarade Roland, excuse-moi, essaie de...
Je vais terminer là.
Il me reste peu de temps. Merci, camarade.
Oui, je vais terminer là.
Merci.
Je voudrais dire deux mots sur cette question, effectivement, du djihadisme, qui est le prétexte de toutes les interventions. On se rappelle tous qu'effectivement, c'est ce qui a été utilisé, hein, pour piéger l'URSS en Afghanistan. À l'époque, Brzezinski l'a dit, lui a écrit, concrètement. Moi, je pense que l'impérialisme décadent a jeté une alliance stratégique avec des régimes religieux fascistes, saoudiens, qataris, donc salafistes et wahhabites, en gros, dans un projet de destruction des États-nations et des États multinationaux laïcs qui sont issus de la première phase de décolonisation, de la première phase de lutte de libération nationale des pays. D'où l'attaque contre la Syrie, avant Saddam Hussein, la Libye, etc., etc. Et que ce projet se répand, c'est le même projet que répand AFRICOM, pour reprendre effectivement le camarade tunisien tout à l'heure, c'est ça qui a adhéré effectivement au projet d'AFRICOM. Et s'ils parviennent à atteindre tous les objectifs en Afrique de l'Ouest, ils vont s'attaquer à l'Afrique centrale et ils vont s'attaquer à cette zone de ligne de résistance qui va de l'Angola au Mozambique en passant par l'Afrique du Sud. Mais l'impérialisme sous-estime un élément, c'est que 60 ans après les indépendances, là où en fait le Wolof français est plutôt Wolof, je suis plutôt Wolof que Sénégalais, il y a quelques années, il y a 60 ans, Là où, en fait, allez, le Kabyle pensait en Algérie que je suis plutôt Kabyle que, en fait, Algérien. Là où, effectivement, je sais pas moi, le Poular ou le Bambara pensait, effectivement, que je suis plutôt Bambara que Malien. Eh bien, 60 ans après les indépendances, l'idée nationale, en attendant l'arrivée de l'idée panafricaine, a fait pas mal de chemin. Le Sénégalais se sent plus Sénégalais aujourd'hui. L'Algérien se sent plus Algérien, et d'autant plus qu'en Algérie, il y a eu 1 500 000 morts pour ça. C'est clair, pour l'indépendance. Et le Malien se sent plus Malien, etc., etc. À mon avis, c'est un élément qui explique pourquoi, en fait, il y a cette formidable résilience de résistance d'un pays en Afrique qui a été le plus martinisé de ce point de vue. C'est le Congo, le Grand Congo, le Congo de Lumumba. Les sécessions, vous vous rappelez ? Tentative du Katanga, etc., etc. Ils ont échoué. Jusqu'à présent, ils continuent. Y compris, ils continuent par le biais. Et c'est là où je voulais chuter. En instrumentalisant, effectivement, le sionisme. Attention, le sionisme commence à progresser en Afrique noire, notamment à travers, par exemple, une figure comme Kagame. Et ça, il faut prendre conscience de ça, très concrètement. Donc, camarades, voilà un peu, moi, ce que je voulais, en fait, apporter comme contribution en termes de réflexion. Il faut prendre en compte, effectivement, la notion de pays rescapé du camp socialiste. Il faut prendre en compte, effectivement, la notion de multilatéralisme comme étape dans le combat, en attendant que les forces révolutionnaires en Afrique se rassemblent, s'organisent mieux. Faire avancer le multilatéralisme, très concrètement, au lieu d'être piégé par ce fameux débat sur la Chine impérialiste et patati patata, etc., qui est une façon de nous détourner, très nettement. Ce que nous cherchons, c'est la souveraineté des pays africains. Étape vers, effectivement, la construction autonome, indépendante, souveraine d'une société africaine débarrassée de l'exploitation capitaliste et impérialiste. Il y a des étapes dans cela. Voilà, moi, ma conviction est fondamentale à ce niveau-là. Merci, camarade, de m'avoir invité. En tout cas, merci de votre initiative.
Merci, camarade Roland.
Samir Sotil Mahouri.